vit dans une société où il y a un trésor d'ingénierie, d'ingéniosité et de savoir-faire pour des produits jetables.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Christopher Santerre. Bonjour, Christopher.
Bonjour, Brieux.
Ça va ?
Ça va très bien, toi ?
Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Tu vas nous parler un petit peu de ton aventure qui est assez géniale et dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler ces dernières années. Et justement, je pense que tu as de bonnes choses à nous annoncer pendant cette interview. Est-ce que déjà tu peux te présenter avant qu'on revienne à ce fameux sujet ?
Donc moi, je m'appelle Christopher, comme tu l'as dit. Je suis designer industriel de formation. J'ai été diplômé en 2014 d'une école qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers. Donc qui forme des designers généralistes, durant laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à poursuivre mes études en design industriel. Et donc à la suite de cette école, j'ai tout de suite pratiqué en tant qu'indépendant. Premièrement, mon premier client, en fait, c'était l'école en elle-même pour réaliser une scénographie à l'occasion de la présentation des diplômes de cette année-là. Et puis, par la suite...
2014,
ouais. Puis par la suite, j'ai assez vite travaillé pour une entreprise, je pense que vos auditeurs connaissent bien, qui s'appelle Uzbekaïka. Alors là, on se demande qu'est-ce que vient faire le design industriel là-dedans, sachant que Uzbekaïka est un média et avant tout un magazine. Et en fait, à cette époque, Uzbekaïka m'avait contacté pour un produit qu'il souhaitait lancer, qui s'appelait à l'époque la Makerbox. Et donc, qui avait vocation à démocratiser, à diffuser la pensée maker et la pratique maker. C'est-à-dire apprendre à faire des choses de ses mains, se réapproprier les moyens de production.
Ce qui était donc, d'ailleurs une idée assez géniale, parce que je me souviens, nous, on était ici à Montreuil.
Oui, tout à fait.
Et on avait vu pas mal de fois Jérôme passer, Jérôme Ruskin, donc le fondateur d'Uzbekaïka. Et je trouvais qu'au niveau de l'exécution, c'était assez intéressant et tout. Mais effectivement, ça a dû disparaître des radars, je ne sais pas précisément.
Oui, mais en fait, c'était même un peu précurseur. En fait, je pense que c'est aussi une bonne idée ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit le bon moment et la bonne exécution. Je pense qu'il y avait la bonne idée. Je pense que l'exécution était là. Après, il s'avère que l'écosystème maker, donc pour reprendre un peu le concept de la Makerbox, c'était un peu à l'image de ces boîtes cadeaux qu'on connaît bien dans d'autres secteurs. Sauf que là, l'idée, c'était pas de faire un saut en parachute ou de partir une après-midi dans un spa, mais de découvrir l'univers de la fabrication personnelle. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer une vingtaine d'ateliers qui pouvaient aller d'une heure à une journée, grâce à ces ateliers donc, qui étaient vendus sous la forme de boîtes cadeaux, de découvrir un lieu, de découvrir un savoir-faire et de repartir avec un objet issu de ce savoir-faire. Et donc, en fait, moi, j'ai rejoint l'équipe à ce moment-là pour constituer l'offre d'atelier et donc d'aller à la rencontre des différents lieux. Donc, c'était assez génial puisque j'ai eu l'occasion de me balader un peu partout en France pour visiter et rencontrer un certain nombre de Fab Labs, de Makerspace, d'Hackerspace.
Ouais, et puis
d'identifier voilà, les projets qu'on allait pouvoir packager sous forme de boîtes cadeaux et puis inventer ou proposer des projets aux lieux en question quand ils n'avaient pas forcément d'atelier déjà packagé ou packageable. Voilà.
Et donc ça, c'est notamment de la borne d'arcade.
Ouais, tout à fait. Ici Montreuil. Ouais. Ouais, c'était assez chouette. Et donc ça, c'est un projet que j'ai accompagné pendant une bonne année et demie. Et donc je suis parti en cours de route pour me mettre à temps plein sur l'Increvable. Donc le projet qui va nous occuper à un moment de cette discussion. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc le projet par la suite de MakerBox n'a pas tenu parce que en fait le modèle économique de la boîte cadeau est un modèle économique basé sur le volume. C'est-à-dire que la commission sur chaque boîte vendue, la marge réalisée sur chaque boîte vendue est vraiment minime. Donc de fait, ça sous-entend d'en vendre quand même pas mal. Et on va dire que l'environnement maker permet pas encore de faire suffisamment d'ateliers, de volumes. À l'échelle d'un pays comme
était très spécifique à certains lieux. Enfin, on l'a évoqué. Exactement. Exactement. L'affaire KIC Montreuil, j'imagine.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, en fait, on va dire que l'environnement n'était pas forcément propice à ce qu'un projet comme MakerBox puisse tenir d'un point de vue économique. Donc, il s'est essoufflé un peu naturellement, on va dire, par ce contexte.
Erika a connu d'autres succès finalement, donc je pense qu'ils ont dû.
Oui, voilà. Et puis c'est aussi ce qui était génial dans ce projet-là, c'est que Ouzbek Erika est un média, mais au-delà de ça, c'est une entreprise qui son cœur de sujet, c'est le futur, et qui se donne pour mission d'explorer le futur et vraiment d'embarquer sa communauté de lecteurs et sa communauté tout court dans des problématiques d'avenir, dans des sujets d'avenir, et de les impliquer de manière très concrète. Alors ils le font depuis aussi avec le magazine évidemment, mais aussi avec les tribunaux pour les générations futures, donc qui consiste à poser une question, à faire débat autour d'une question d'avenir sur tout un tas de sujets. Hein. Ça peut aller
sur. Rendu à, je sais plus, 30 ou 50.
C'est devenu une vraie institution.
J'ai même vu qu'il y en avait un déjà aux États-Unis là, qui se préparait.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a toujours eu cette volonté de la part d'Ouzbek Erika d'impliquer directement sa communauté dans ces thématiques d'avenir. Donc, c'est vrai que c'est. MakerBox faisait partie de ces expérimentations. Mm-hmm. Et c'était assez plaisant, en fait, d'explorer ça avec eux et de tenter quelque chose, quoi, de se dire allez, on essaye, on voit ce que ça donne, on voit si ça prend, et puis si ça prend pas, c'est pas grave, on aura essayé quelque chose. C'était assez génial à vivre.
J'imagine. Et alors justement, tu as commencé à l'évoquer, est-ce que tu peux nous présenter l'Increvable?
Oui, avec plaisir. L'Increvable, c'est le projet qui m'occupe maintenant depuis bien 3 ans. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc déjà pour reprendre le fil initialement, l'Increvable, c'est le projet de fin d'études de mon associé, du designer qui deviendra par la suite mon associé, Julien Feyef. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Donc on est rentrés, on fait partie de la même promo de l'ENSI, et puis on est sortis la même année, en 2014, tous les deux en réfléchissant à comment on pourrait faire de l'électroménager autrement. Et Julien s'est intéressé au lave-linge. Et notamment, dans son mémoire, il s'était intéressé au caractère démontable des objets. Il a toujours aimé démonter ce qui l'entoure, démonter les objets de son quotidien pour premièrement, mieux les comprendre, pour voir comment ils fonctionnent, voir comment ils sont fabriqués, etc. Et puis, donc ce travail de démontage, montage qui le passionnait, qu'il a abordé pendant son mémoire et qu'il a abordé pendant son diplôme à travers le projet de l'Increvable. On est en 2014, et le projet de l'Increvable, donc initialement, donc c'était un lave-linge anti-obsolescence programmée. Dans le projet initial, on montait soi-même sa machine à laver. Pour aussi à des fins pédagogiques, dans l'idée de se dire si on la monte soi-même, déjà on va être obligé de comprendre de quoi elle est constituée, de comprendre comment elle est assemblée, et en cas de problème on saura comment la démonter, qui s'est monté, s'est démonté, etc. Et
puis il y a vraiment cette notion d'épurer le sujet au maximum, quoi.
Ouais, tout à fait.
Vraiment le strict nécessaire.
Ouais, de partir vraiment pas être dans une surenchère technologique, mais même tout l'inverse, de repartir sur les fondamentaux sans virer dans la nostalgie non plus, puisque l'Increvable comprend des composants électroniques. On n'est pas non plus dans l'idée de de faire du rétro, de faire à l'identique une machine qui daterait des années 60 ou 70, mais de se dire comment on peut prendre le meilleur d'hier et d'aujourd'hui et de faire une machine qui répond à un besoin qui est de laver du linge, et mais de le faire de manière avec une voilà, comme tu l'as dit, un objectif d'épure dans la conception, de vraiment revenir à l'essentiel et de proposer un produit fiable et qu'on va pouvoir être en mesure de réparer soi-même. Donc ça, c'est le projet de diplôme. On est en 2014. Le projet de diplôme est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par le jury à l'époque, puisque Julien est fini par être diplômé avec les félicitations du jury. Le projet est ensuite exposé à l'Observeur du Design, qui est une exposition qui a lieu tous les ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
Alors, organisé par la PCI,
c'est ça ? Organisé par les PCI, exactement.
Alors, la PCI, juste pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu du design français, c'est l'Association professionnelle de création industrielle, si je ne me trompe
ouais,
pas.
Ou l'Association pour la promotion de la création industrielle, je crois, quelque chose comme ça. Donc, une exposition, effectivement, qui est entièrement dédiée à la promotion de la discipline et de la profession de designer industriel. En présentant une sélection annuelle de projets, que ce soit français ou étrangers d'ailleurs, qui dénotent d'un intérêt particulier, voilà, selon les critères de la PCI. Et donc, parmi la sélection de l'année 2015, il y avait l'Increvable. Et tout de suite, ça a donné une certaine visibilité, une certaine visibilité auprès du grand public et des médias pour le projet. Il a commencé à y avoir quelques articles sur le projet
l'article dans le magazine Les Numériques. Là.
Tout à fait, ça a commencé par là. C'est le premier article qu'il y a eu sur la machine et qui a tout de suite suscité beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engouement de la part des lecteurs en fait. Et vous pouvez le voir dans les commentaires qui étaient laissés. Et s'en est suivi pas mal d'articles presse et web. Et à partir de là, Julien et moi, on travaillait pas du tout ensemble à ce moment-là. On avait chacun nos activités.
Même pour Julien, disons l'Increvable était exposé, mais il vivait sa vie à côté.
Quoi. Oui, tout à fait. Il avait pas du tout vocation à en faire un projet d'entreprise. Et puis moi, à ce moment-là, je travaillais chez Uzbek Erika. Julien aussi, je crois, à ce moment-là, entre des missions freelance et un emploi de responsable d'atelier à LNC. Et donc on suivait chacun notre bonhomme de chemin. Puis bon, on gravitait encore pas mal à l'école. Moi, je passais régulièrement. Et puis voilà, en prenant des nouvelles, en se disant le projet, qu'est-ce qui devient, on en discute tous les deux, et puis de fil en aiguille, on se dit pourquoi on profiterait pas de cette belle énergie, de ce qui commence à émerger autour du projet en termes d'attente, en termes d'envie, en termes de curiosité de la part du public pour monter une entreprise dont l'entreprise dont on rêve, en gros, créer notre job de rêve, notre emploi de rêve, du moins la manière de créer l'entreprise dans laquelle on aimerait travailler. Parce que l'un comme l'autre, on se voyait pas forcément intégrer une entreprise conventionnelle et on avait vraiment envie de poursuivre une vision singulière du design industriel à travers ce projet notamment. Donc on a décidé de commencer à travailler ensemble, dans un premier temps en parallèle de nos activités respectives. À ce moment-là, on travaillait à raison d'un ou deux jours par semaine sur le projet. Et là, la première étape qu'on s'est dit, c'est d'une part déjà d'asseoir la visibilité du projet en faisant un site internet, tout simplement, pour pouvoir récolter des messages, avoir communiquer dessus, que les gens puissent se référencer à un site, puissent nous laisser leur email pour avoir une newsletter, etc. Et donc, commencer à nouer contact avec les personnes qui sont intéressées par le projet. Et puis commencer à s'intéresser à comment on fait une entreprise. Parce que même si moi, pendant mon parcours, typiquement, j'avais eu l'occasion de faire un semestre de césure dans une école de commerce, m'initier un peu ma culture, disons, à la culture de commerciale, à la culture entrepreneuriale, à savoir ce que c'est un business plan, etc. Ça restait très court très superficiel. C'était une bonne prise de contact, mais...
Mais rassure-toi, même en 5 ans, on n'apprend pas à faire une entreprise.
Mais clairement, moi-même, avec le recul qu'on a aujourd'hui avec Julien, on reste toujours des néophytes et dans une posture d'apprenant permanent, quoi. Ce qui fait à la fois, ce que je trouve... Ce qui est dans l'entrepreneuriat à la fois passionnant et en même temps épuisant.
C'est-à-dire
que tu es toujours dans une posture d'apprentissage constant, en fait, parce que tu abordes constamment des problématiques que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est un peu l'effet du pays étranger où tu as de la migraine constamment parce que tu essayes de comprendre ce que les gens te disent et tu te concentres pour parler et la moindre demande sollicite énormément de ressources. Et en même temps, tu es content parce que tu découvres une nouvelle culture et une nouvelle langue. Mais l'entrepreneuriat, c'est constamment ça. En fait, tu es tout le temps en train d'apprendre 3 ou 4 langues en même temps. Donc, c'est passionnant, mais c'est parfois épuisant. Donc, on décide de créer cette entreprise et notre premier objectif, c'est de se dire, OK, là, c'est du lourd. On s'embarque quand même dans la conception d'un lave-linge. C'est pas anodin. Il va nous falloir un atelier, il va nous falloir des machines, il va nous falloir de quoi, déjà, dans un premier temps, démonter des machines pour faire du reverse engineering et aller vraiment au fond des choses. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est chercher des financements et chercher un local. Ça va nous occuper une bonne année.
On est en 2016.
On est entre été 2015 et été 2016. Donc, on va passer un an, en parallèle de nos activités d'indépendants, à se renseigner sur comment on monte une boîte, comment on dépose des statuts. Au départ, on voulait monter une association, on avait peur de monter des statuts parce qu'on se dit, voilà, ça va nous coûter une fortune, il faut qu'on ait un comptable et tout. Et puis, pourquoi pas une coopérative? Enfin, on a tout exploré. Et puis finalement, on a monté une SAS, tout ce qui est de plus commun. Mais donc, vraiment, on est passé par toutes les étapes des questionnements.
Surtout, on est passé par là aussi quelques années avant.
Je pense qu'on est, c'est un peu le parcours type. Mais c'est un bon baptême du feu en même temps. Et donc, on a fini donc par monter la SAS, qui était officiellement créée le 2 septembre 2016. Ce qui nous a permis aussi de solliciter des subventions, de répondre à un certain nombre d'appels à projets, de subventions, etc. Ce qui n'était pas possible sans statut, sans numéro SIRET. Donc, il nous fallait ça assez vite. Donc, on a monté la structure, on a réussi à avoir plusieurs subventions. Une première subvention du ministère de l'Éducation nationale qui soutient des étudiants ou des jeunes diplômés dans la création de leur entreprise, donc à travers un prix qui s'appelle le prix Pépite.
D'accord.
Donc là, on avait touché à l'époque 10 000 euros via ce prix-là, donc c'était une belle somme déjà. Nous, en tant que designer, on était habitués à des concours de 3 ou 5 000 euros au mieux, et on s'est dit, oh, c'est bien ça, c'est déjà un bon départ. Et puis on a réussi à avoir comme ça d'autres soutiens, de la part également du ministère de la Transition écologique et solidaire, via un appel à projet qui s'appelle Green Tech Verte, qui a vocation à soutenir des initiatives entrepreneuriales qui lient à la fois problématiques environnementales et technologiques. Au début, on se disait, oh là, ça nous paraît bien. Nous, on est technologique, mais pas tant que ça. Mais finalement, ça, parce qu'il y a toute la partie en ligne du projet aussi, avec accompagnement à l'autoréparation, il y a des outils d'autodiagnostic, des tutoriaux et compagnie.
Donc, il y a quand même. Ça, on va y revenir,
on y reviendra.
Il faudra avoir toutes les. Il
y a plusieurs dimensions.
Entre l'increvable et un produit classique, toutes les étapes.
Tout à fait. On pourra y revenir. Produit, ouais. Donc, voilà, on a réussi à additionner comme ça plusieurs aides qui nous ont permis de financer un atelier. Donc pareil, la grosse problématique de la recherche de locaux, parce que là, il y a les problématiques de bail, etc., de s'engager sur... On avait zéro visibilité, donc il nous fallait quand même un truc assez flexible. Et en même temps, dans le centre de Paris, quand tu fais du hardware et que tu as besoin de place... là c'est un secret pour personne, le mètre carré coûte très cher à Paris, donc c'est très compliqué. Donc on a commencé à se renseigner dans différents makerspaces. Là pour le coup, ce que j'avais commencé à défricher avec Makerbox m'a bien servi. On était voir du côté du tech shop ici Montreuil, etc. Mais on voulait vraiment un atelier dédié, dans lequel on puisse faire un peu ce qu'on veut. Et on a fini par trouver, un peu par hasard, en sollicitant les uns les autres, la pépinière de la Courneuve.
D'accord.
Qui est peu connue, à tort, parce que c'est un endroit absolument génial, qui est en plein cœur de la Cité des 4000, à deux pas du Stade de France. En fait, ça date d'il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, le quartier est toujours en restructuration, mais il y a un grand plan d'urbanisme qui visait à complètement refondre le quartier, à un peu passer l'éponge sur ces grandes tours dont l'échelle est pour le moins assez inhumaine. Enfin, c'est des tours qui font partie du paysage maintenant de ces quartiers-là, mais qui sont quand même qui témoignent d'une époque révolue, je pense. Et donc, dans ce programme de réhabilitation du quartier, de restructuration, mais ils ont mis en place il y a une dizaine d'années cette pépinière qui a vocation à dynamiser le tissu économique local. Et dans cette pépinière, il y a des locaux qui vont de 25 mètres carrés à 150 mètres carrés.
D'accord.
Pour des loyers très accessibles. Mais alors, il y a tout un processus de sélection. Voilà, faut aussi faire la démonstration de pourquoi ici. Donc, on a eu la chance d'être retenu et on a pu s'installer dans un très beau local de 80 mètres carrés. Avec tout ce qu'il nous fallait, arrivée d'eau, air comprimé, triphasé, on retrouvait le confort de l'école, quoi.
D'accord.
Parce que c'est toujours beaucoup de diplômés de l'ENSI à la sortie de l'école ont cette frustration de perdre le confort des ateliers, forcément. Et c'est pas évident à retrouver au vu des moyens que ça demande. Et là, on avait réussi à constituer une sorte de mini-ENSI avec tout ce qu'il fallait. Et Julien a un parc machine qui constitue depuis longtemps au fur et à mesure. Et il a pu amener aussi ces machines-outils, ce qui nous a permis vraiment d'avoir les bonnes conditions pour commencer à travailler. Et donc là, on est en début 2017. On est installé dans la pépinière de la Courneuve. Et là, on amorce un processus de recherche et développement qui se poursuit encore aujourd'hui. Et donc, qui a commencé par toute une étude de l'existant. On a commencé par démonter des machines de la plus bas de gamme, même pas 200 euros, jusque quelques machines haut de gamme à plus ou moins 1000 euros.
Parce que justement, t'as des surprises que t'as vues dans le bas de gamme ou dans le haut de gamme, tu te dis, mais c'est même pas croyable ce qu'il y a sous le capot.
Alors, des surprises un peu attendues, hein, des demi-surprises, on va dire, parce que c'est vrai que dans la machine à 200 euros, on s'attendait bien. Alors, c'est marrant parce que dans la machine à 200 euros, il y avait à la fois des non-surprises dans le sens où, très clairement, il y avait plein de pièces qui étaient soudées, la carrosserie extérieure était complètement sertie, la cuve et donc, alors pour les néophytes, en fait, donc il y a une machine à laver, on a la peau extérieure, la carrosserie, on l'appelle comme on veut, hein, mais c'est faces en tôle d'acier, en fait, qui sont donc embouties, pliées, assemblées. Pour les assembler, plusieurs méthodes. Par moments, c'est emboîté, vissé, et des moments, c'est serti, c'est-à-dire que c'est collé. Ni plus ni moins, donc serti ou soudé, et ce qui fait que en fait, les différentes parois de la machine sont inamovibles. C'est-à-dire que ça devient très compliqué, quoi. Et donc là, typiquement dans cette machine dont je parle, tu peux juste enlever la face du haut. La face plate du haut, mais la face avant, par exemple, c'est impossible. Elle est solidaire des faces, des côtés, des parois latérales.
Juste rien faire à part.
Donc là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis une fois que tu as enlevé la face du haut, tu peux avoir vaguement accès à la cuve. Mais la cuve en elle-même, elle est pareil. Une cuve, donc c'est là, à l'intérieur. Donc c'est un peu une poupée russe, la machine à laver.
Ouais, c'est ça, où tu vas avoir toute l'eau qui passe.
Voilà, c'est ça. La cuve, c'est la partie dans laquelle il y a l'eau et dans laquelle tourne le tambour en inox. Mais la cuve, aujourd'hui, elle est majoritairement en plastique. Le tambour est toujours en inox, mais la cuve est en plastique aujourd'hui. Pour des questions d'économie d'échelle, le plastique revenant moins cher que l'inox
Ouais, il faut un truc qui laisse pas passer l'eau, etc.
Voilà. Donc. Mais donc, c'est les cuves dans des machines comme celle-ci sont collées. Du coup, typiquement, pour changer un roulement, ça devient très compliqué. Et après, cette machine, par exemple, très bas de gamme, était intéressante parce qu'il y avait juste l'essentiel. Et bah vraiment, il y avait juste ce qu'il fallait. Il y avait pas de superflu.
Vraiment au casse-killing.
Ouais, voilà. Et ça, des moments, la conception avec le coup comme vraiment comme ligne directrice, ça donne aussi des. Bah alors, ça donne des résultats complètement irréversibles en termes d'assemblage. Mais ça donne aussi une recherche de d'épure absolue, de dire ok, on enlève vraiment tout ce qui est superflu. Donc on a vraiment l'essence du produit quoi. Donc c'est pas inintéressant à démonter. C'est une vraie leçon d'épure pour le coup. Bon après on constate que toutes les épaisseurs sont amoindries. Vraiment ça donne un produit très fragile quoi.
On sent tout de suite qu'il y a une durée de vie limitée au produit.
Ouais tout à fait, mais qui est dû vraiment au fait de gratter le moindre centime partout et là typiquement
c'est des produits qui sont fabriqués par série de milliers et milliers
de centaines de milliers ouais, voire millions par mois.
Forcément le moindre milligramme
Moindre gramme de matière, le moindre millimètre et la moindre seconde aussi. Typiquement c'est là où aussi nous on nuance beaucoup un peu le complot des grands méchants industriels, c'est-à-dire que faut se dire aussi que c'est un vrai trésor d'ingénierie hein, de réussir à aujourd'hui faire un lave-linge à moins de 200 euros qui n'explose pas.
C'est une complexité incroyable.
C'est une complexité incroyable. Donc et en même temps,
d'autant plus avec de l'eau et de l'électricité qui
s'approche. Ouais, c'est un produit ultra complexe. C'est une centaine de pièces. Il y a l'eau du 220. C'est vraiment un produit casse-tête. C'est un produit qui est commun, mais qui reste un produit casse-tête. Et donc, c'est un vrai défi de réussir à sortir un produit comme ça à moins de 200 euros. Et donc, on se dit, en même temps, on se dit, punaise, mais on vit dans une société où il y a un trésor d'ingénierie, d'ingéniosité et de savoir-faire quoi pour des produits jetables quoi.
Ouais.
Pour vraiment du produit complètement prêt à jeter, tu vois, on est dans la fast fashion du lave-linge quoi. C'est du produit, il est à peine, enfin voilà, on sait qu'il va pas pouvoir durer plus de 4-5 ans quoi. Ouais. Et encore.
Oui, pour que les gens en prennent pas soin, effectivement.
Donc c'est vraiment un produit. En fait, là, quand ces produits sont conçus, c'est un prix qui est conçu avant même. En fait, l'objectif final, c'est le prix.
Mm-hmm.
C'est pas de faire un produit fiable, réparable, autre. C'est de réussir à sortir un 9-9, comme dirait un commercial. Un moins de 200 euros, quoi.
Mm-hmm.
Et
un prix d'appel.
Voilà. Et ça, c'est une vraie. Ces produits-là aujourd'hui, c'est une vraie plaie quoi, parce que en même temps, tu peux pas en vouloir à une personne qui a pas beaucoup de moyens d'acheter ces produits-là, et en fait, ça tire tout le monde vers le bas. Parce que les autres constructeurs, ils disent, oh là là, il faut qu'on soit aussi peu cher, etc. Et ça tire tout le marché vers le bas.
Ouais,
et
puis que ce et soit tout le marché les vers... producteurs, les gens qui les fabriquent, et aussi les consommateurs.
Ouais. Et ceux qui s'y retrouvent le mieux dans ces produits-là, c'est les distributeurs, en fait, qui se font des marges énormes, et eux qui vendent des prix, tout simplement. Ils vendent des prix, et que le produit ou pas soit réparable ou pas, ils s'en foutent.
Que ce produit, tout est comme ça. Quoi.
Et donc, c'est du produit d'appel qui va faire venir les gens en magasin, qui va permettre de solliciter aussi d'autres achats, etc. Donc, c'est une vraie plaie. Et pour nous, en fait, typiquement, c'est des produits qui devraient être... il devrait y avoir, en fait, si tu veux, pour nous, un malus sur ces produits-là. Parce qu'en fait, il y a plein de coûts cachés que le metteur sur le marché,
en fait.
Ouais, qui sont externalisés, c'est des coûts de traitement, c'est des coûts d'incinération, c'est des coûts d'enfouissement, parce que je l'ai pas dit, hein, mais j'aurais peut-être dû le dire en guise d'introduction pour donner un peu l'échelle et la mesure du sujet. C'est-à-dire que nous, l'une des motivations aussi qu'on a dans l'Incroyable, c'est de proposer une alternative à la situation actuelle où on produit, mais de plus, enfin, ça va étonner personne et on est tous plus ou moins conscients de cette situation, mais on produit une quantité astronomique de déchets en tout genre et de déchets notamment d'équipements électriques et électroniques, ce qu'on appelle en abrégé les D3E.
Tout à fait.
À l'échelle mondiale, pour vous donner une idée, ça représente, je crois, dans les 41 millions de tonnes de déchets. Et rien qu'en France, ça représente, à titre individuel, 20 kilos par habitant, par an.
Oui, et puis en plus, c'est toujours des produits, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont complexes. Donc, non seulement la fabrication, mais encore plus en fin de vie à traiter. Quoi.
Et donc là, on est au cœur du sujet de comment on repense le cycle de vie d'un produit, comment on repense de sa conception jusqu'à sa fin de vie, comment on optimise au maximum les ressources. Et là, avec des produits comme celui dont on parle depuis quelques minutes, là, des produits d'entrée de gamme, on est vraiment à rebours de tout ça. C'est des produits qui sont vraiment faits pour être jetés rapidement. Quoi.
Ouais, et puis en plus, c'est un aspect que tu n'as pas encore évoqué, c'est aussi quelles matières sont utilisées. J'imagine c'est l'extraction des matières les plus classiques, basiques, de façon à se dire on les achète le moins cher
possible,
dans les conditions les pires possibles.
Après les différences, tu vois, entre un produit, on va dire entrée de gamme et milieu de gamme, ça change au passage sur le haut de gamme, parce qu'on va avoir des produits plus nobles comme l'inox, qui sont totalement absents des segments bas de gamme et milieu de gamme. Mm-hmm. Mais si, globalement, sur l'ensemble du spectre de 200 à 1000 euros, on retrouve quand même majoritairement de la tôle d'acier, du plastique. Et c'est juste à partir de 1000 euros, on va trouver des cuves en inox. Parce que c'est, voilà, la matière première est plus chère. Tu t'amortis moins tes outils puisque... là où l'injection plastique, en fait, le coût par pièce devient, très marginal, parce que le coût de la matière est tellement bas par rapport à l'inox, tu fais moins d'économies d'échelle, quoi.
Bien sûr.
Et donc, voilà, on a vu. Après, ce qui était intéressant, c'était sur le segment, 400-700 euros, où les différences sont très marginales.
Donc, tu veux dire le milieu de gamme, quoi ?
Milieu de gamme, oui. On va dire, pour une grosse fourchette, entre 350 et parfois 600-700. Où là, on est sur de l'effet de l'esbrouf, un peu de l'effet le chrome par-ci, le chrome par-là, la petite fonctionnalité un peu gadget.
LED à droite à gauche.
Voilà. Et des loupiottes, un peu de connectivité. Et en fait, ça vaut pas grand-chose en plus. Mais les prix gonflent de 50, 100, 200 euros en plus.
Oui, puis en plus, il y a peut-être plus de marques avec une meilleure réputation qui jouent là-dessus.
Ouais, voilà. Il y a l'effet marque. En fait, là, on est dans l'esbrouf marketing. Et donc, mais ça peut aller, le produit va prendre 50%, mais juste parce qu'il y a des effets marketing, ça va être le hublot qui est artificiellement plus grand, alors qu'en fait, les diamètres de porte sont relativement standards. Et il s'avère que l'ouverture concrète est quasiment toujours la même.
C'est juste un effet visuel.
C'est juste un effet cosmétique. Donc là, c'est tout ce qui est plus mauvais dans le design, si tu veux, le design comme artifice marketing, où on est juste dans l'esbrouf visuel. Donc on va te donner une sensation d'hublot énorme, mais en fait, tu as un double hublot, tu vas avoir une vitre en plastique à l'extérieur, et puis le hublot en verre derrière fait toujours la même.
Tout ce qui est le circonférence. Rebord, en fait, va être vachement plus limité. Quoi.
Ouais. Et donc ça.
Quand on y réfléchit, on s'en fout de voir complètement que le linge tourne. Quoi.
Alors, après, il y a la question du hublot en tant que tel. C'est vrai que c'est un sujet que... C'est devenu un élément iconique, mais c'est vrai que, par exemple, sur les machines à ouverture par le haut, on ne voit pas le linge qui tourne. Okay. Ça ne choque personne.
Ouais.
Ça permet de voir quand le cycle est arrêté. C'est peut-être le seul élément fonctionnel que j'y vois. Mais c'est vrai que ça ne... on pourrait s'en passer. D'ailleurs, il y a des lave-linges intégrés avec un coffrage pour s'adapter à l'esthétique d'une cuisine, par exemple, dont le hublot est calfeutré, quoi. Enfin, il est camouflé. Nous, on a fait le choix peut-être un peu... on a fait le choix de maintenir le hublot. Ça fait partie quand même critère assez iconique d'un point de vue visuel du produit. Donc voilà, ça a été notre première étape de démonter un certain nombre de machines et de voir ce qui différencie vraiment les unes des
et
autres.
Et pour finir, peut-être rapidement, sur, mmh. Sur les produits haut de gamme, est-ce que là aussi, tu avais eu des surprises ou des trucs assez surprenants, enfin, qui t'ont qui semblent assez évidents, en fait ?
Ben alors... Oui, mais sur les produits haut de gamme, tout de suite, on s'est aperçu des épaisseurs, de la matière, des choix de matériaux, l'inox pour la cuve.
Plus solide,
plus pérenne, qui a un certain nombre d'avantages. Plus facilement recyclable aussi. Si on pense en termes de fin de vie, l'inox se revalorise beaucoup mieux que... parce qu'en fait, les cuves plastiques, c'est pas 100% plastique. C'est un plastique qui va être chargé.
Avec
de la fibre, parce que c'est quand même des pièces qui sont soumises à des stress mécaniques importants, et donc ils vont être chargés, et donc ce qui fait qu'à valoriser, c'est pas impossible, mais c'est loin d'être commun.
Oui, à part refaire exactement la même chose,
c'est ça. C'est compliqué. Et donc en fait, c'est jamais valorisé aujourd'hui. Oui.
Clairement.
Et puis en plus, il y a des intégrations de fonctions. Donc, tu vas avoir des pièces en métal qui sont surmoulées dans le plastique. Autant te dire que là, ça, c'est pas du tout recyclé. Et donc, c'est une vraie galère. Et la cuve en inox, pour ça, au-delà de l'avantage de la pérennité, de la noblesse du matériau, c'est qu'elle est revalorisable beaucoup plus facilement. C'est de l'acier, ça se refond. Et
paradoxalement, ces produits-là ne sont pas pris en compte dans le business model des fabricants pour pouvoir être récupérés.
Non, du tout.
Ce qui est peut-être correct.
Non. Bah, on est dans un modèle, mais là, c'est pas pour dédouaner les fabricants hein, qui ont leur part de responsabilité, bien évidemment. Mais nous, on part toujours du principe qu'il y a trois responsables dans cette histoire. Il y a les metteurs sur le marché, les fabricants. Les distributeurs aussi, les pouvoirs publics et les consommateurs.
Okay.
Ouais, je regroupe les distributeurs, fabricants, les acteurs privés, disons,
ouais.
La société civile et les pouvoirs publics. Pourquoi je dis ça ? Parce que oui, le traitement des... Aujourd'hui, un fabricant, il est responsable pendant 2 ans de la machine et après, c'est... Adviendra que pourra. Hein. Ouais, si ça finit dans un incinérateur, dans une forêt, au fin fond d'une rivière...
Ou en bas de la rue,
ou que c'est recyclé, pour lui, ça ne change rien.
Ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, il y a des sujets comme ça sur la responsabilité élargie du producteur, ce qu'on appelle la REP, ouais. Pour tout ce qui est filiale de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, notamment. Donc, pour finir là-dessus, par rapport aux machines haut de gamme, on a vu, notamment chez des fabricants coréens, pour ne pas les nommer, mais on a tous en tête au moins 2 marques, pas mal d'esbroufe marketing. Ou autant il peut y avoir des bonnes idées, oui.
Notamment celui en 2 lettres.
Ils tentent des choses, mais alors là, on y va. Il y a de la LED à tout va, il y a du bandeau de commande à commande tactile. Il faut que ça ait l'air, il faut que ta machine ait l'air de venir d'une autre dimension, qu'elle vienne du futur et que ça s'en mette plein la vue. Quoi. Il y a du faux chrome en plastique. Et tout ça, c'est des coûts supplémentaires, en fait. Et pareil, c'est... ça demande des efforts en termes de conception, de fabrication, d'industrialisation. Tout ça, c'est des surcoûts. Mais c'est que pour de l'effet visuel, beaucoup.
Voilà. C'est vraiment de l'effet en magasin pour,
voilà.
Pour mieux vendre.
Exactement. On est sur le linéaire et là, il faut convaincre l'acheteur moyen et lui en mettre plein la vue. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'automobile.
Ouais, complètement.
Où ça devient des grosses boîtes, on est dans de la séduction cosmétique. Mais alors là, pour le coup, en tant que designer, nous, ça nous donne de l'urticaire parce que pour nous, notre discipline, c'est tout sauf ça.
Ouais, tout à fait.
Là, c'est le design au service du marketing. Mais encore un marketing de bas étage. Quoi.
Un marketing qui agit vraiment sur les
ressorts les plus primaires de l'humain et on va le séduire à coup de chrome, de brillant. Et c'est très cerveau reptilien. Hein. C'est très basique, quoi. On aguiche le regard avec des trucs qui bougent, qui des loupiottes, du brillant, de la couleur flashy, de l'effet visuel. Et là, tu agis pas du tout sur des ressorts de raisonnement rationnel. Tu agis purement sur. Alors, je dis pas qu'il faut être des êtres froids et rationnels uniquement, purement cartésiens. Mais au vu des effets pervers que ça a, tu vois, cette séduction purement sur des atouts esthétiques gratuits et qui n'apportent rien au final, ni à l'usage, ni à la recyclabilité du produit, ni à ses performances énergétiques, etc., ça peut avoir des effets assez néfastes. Donc voilà, ce benchmark, en fait, cette comparaison d'une dizaine de produits nous a permis d'identifier un certain nombre de bonnes pratiques, de bonnes et mauvaises pratiques sur différents segments. Et se dire, OK, on va plutôt se baser là-dessus, prendre ça, 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 ça. Et donc ça nous a permis de refondre complètement la conception initiale de la machine. Et aussi de la penser dans une logique plus industrielle, là où le projet de diplôme était vraiment dans une vision, dans un concept. Relativement décorrélé d'impératifs.
En plus, le prototype, je suppose, n'était pas forcément fonctionnel.
Non, du tout, du tout.
Donc là, vous arrivez vraiment au niveau au-dessus.
Et donc là, l'idée, c'était, voilà, de par ce qu'on avait identifié comme bonne et mauvaise pratique. Bonjour. Et là, de repenser notre conception et de proposer une nouvelle version qui pouvait aussi voir le jour. Relativement rapidement, en s'inscrivant dans une ligne de production potentiellement existante, etc. Voilà, donc comment on a fait. Donc on a identifié un châssis qui nous paraissait répondre à un certain nombre de nos critères. Ouais. On s'est dit, bah voilà, et pour notre V2, on se base sur ce châssis-là, avec Cuvinox, avec une architecture, une conception inspirée du monde professionnel. Dimensionné pour durer plus longtemps que la moyenne. Donc on va partir sur ce châssis-là et on va y amener notre valeur ajoutée, notamment en termes d'accès. Donc là, on a entièrement revu la conception de ce que j'appelais la carrosserie tout à l'heure.
Assez modulaire, si je me souviens bien.
Voilà, donc on a entièrement repensé la peau extérieure de la machine pour faciliter les accès, que ce soit la face avant de la machine qui peut être enlevée facilement, les accès arrière pour accéder aux électrovannes, la face arrière pour accéder au roulement. Roulement qu'on a aussi repensé, du moins la pièce dans laquelle il y a les roulements, c'est ce qu'on appelle le palier. En fait, le palier aujourd'hui dans les cuves plastiques, il fait qu'un avec la cuve. La cuve et le palier, c'est la même chose. Donc le palier, c'est l'élément dans lequel il y a les roulements. Mais l'injection plastique a cet avantage que c'est suffisamment souple en termes de mise en forme, qu'on peut y intégrer plein de fonctions. Des attaches, des pièces, autres. Et là, on a décidé de dissocier ces fonctions. Parce que les fusionner, c'est bien au moment de la fabrication. Ça permet d'économiser des pièces, d'économiser des coûts de fabrication. Mais au moment de la réparation, cette fusion des pièces empêche au moment de l'intervention. Donc c'est une vraie galère. Donc nous, on a décidé de faire du palier une pièce indépendante de la cuve. Donc l'idée, c'est de pouvoir juste dévisser le palier, d'accéder au roulement, de changer les roulements, d'en mettre des neufs et de revisser le palier, et de faire repartir la machine pour plusieurs années. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, généralement, un roulement, quand on a un usage moyen de 3-4 cycles par semaine, ça dure 7-8 ans. Au bout de 7-8 ans, de toute façon, c'est simple, on l'entend rapidement. C'est le cas de ma machine en ce moment. Elle va sur ses 8 ans. Je sais ce qui se passe là. Au moment de l'essorage, il y a un petit clac, 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 clac. Un petit bruit, c'est lié à un jeu. Qui a au niveau de l'axe du tambour et un jeu qui a au niveau des roulements parce qu'ils sont usés tout simplement. Donc ça en soi rien de grave. Tout produit mécanique avec des mouvements mécaniques, ouais, tout produit a des pièces d'usure.
Sur une machine comme
voilà,
ça.
C'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, un simple roulement qui vaut peut-être 3 ou 5 euros, qui a une pièce d'usure, qui s'use avec un usage normal.
Par définition.
Et ben là, on peut pas le changer. Donc c'est comme si, souvent la comparaison que je donne, c'est comme si sur ton vélo, les pneus étaient collés, que les roues étaient collées, et que à la moindre crevaison ou à un moment tes pneus sont usés, et ben tu changes de vélo. Enfin, ça me paraît très dingue. Ou tu changes de voiture parce que les plaquettes de frein sont usées. Mmh. Là, on te dit ça, tu vois, ton garagiste, il dit non, non, plaquettes de frein, vous comprenez, là, il faut changer de voiture.
Surtout que la comparaison que tu donnes est presque flatteuse parce qu'un pneu que tu vas changer sera plus cher que le roulement en question.
Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, on est sur un roulement à 5 euros et tu vas devoir bazarder ta machine pour ça. Et ben, donc là, typiquement, l'intervention sur le palier, elle permet d'éviter ça. Elle permet de la réparation. Donc, il y a face avant, palier. On intervient aussi sur le bandeau de commande, sur la manière dont il vient s'encastrer sur la face avant pour pouvoir être changé facilement aussi, pour pouvoir être mis à jour aussi. Parce que l'idée, c'est que nous, nos trois mots-clés, c'est durable, réparable, évolutif. Donc durable par une fiabilité accrue en se basant sur des éléments inspirés du monde professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous permet de doubler à minima la durée de vie de la machine, donc d'être pas sur 10 ans, mais au moins 20 ans. L'accessibilité, donc qui permet la réparabilité, et l'évolutivité. Et ça, l'évolutivité, on la voit de deux façons, logicielle et matérielle. La mise à jour logicielle, c'est peu courant, mais c'est très simple. Aujourd'hui, même on peut avoir du Wi-Fi sur une machine, une puce Wi-Fi ou une puce Bluetooth, et ça nous permet, je sais pas, à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone, de venir télécharger un nouveau logiciel dans la machine. Et ça, ça peut permettre d'optimiser les cycles de lavage, de mettre à jour les cycles de lavage, parce que ça, c'est de l'amélioration constante.
Oui, bien sûr.
Permanente. Ça fait des années que nous, on échange avec un fabricant de cartes électroniques qui est spécialisé dans les cartes électroniques de lave-linge. Bon, c'est une expérience de fou, quoi. D'optimiser une recette de lavage, les monter en puissance, etc.
Tu penses que même au fur et à mesure des années, tu peux encore améliorer?
Ouais, ouais, complètement. C'est en amélioration constante. Et,
surtout que même sur ce sujet, genre, par exemple, un sujet complémentaires, genre les lessives, encore plein d'innovations en cours.
Tout à fait.
Mais genre le fait d'oublier tout ce qui est certains produits issus de la pétrochimie, etc. Enfin, ça a des vrais impacts aussi, ça, j'imagine.
Ben ça, c'est un sujet qu'on creuse également. Nous, on a fait un choix assez radical. On verra si on arrive à le maintenir jusqu'au bout, mais c'est de se passer de bac à lessive.
D'accord.
Alors, premièrement, parce qu'on trouve que c'est une pièce très ingrate. Généralement, il y a du jeu. C'est une pièce qui est un peu branlante, si je peux me permettre, qui s'encrasse.
Ouais, et puis qui nécessite des jonctions, etc.
Ouais, voilà, c'est plein de désavantages. Il y a toujours de l'eau stagnante, de la lessive.
Et usage, la plupart des gens finalement mettent un bouchon maintenant.
Alors, il y a l'usage de mettre le bouchon directement dans le tambour, mais nous, là où on veut aller plus loin que ça, c'est de supprimer le bac à lessive. Pour privilégier le dosage automatique. Donc en fait, l'idée, elle est très simple, c'est que tu as des réservoirs. Tu as deux réservoirs en bas de la machine que tu vas remplir, qui font un peu plus d'un litre chacun, qui va te permettre d'avoir une autonomie de plusieurs cycles et donc d'éviter d'avoir à mettre de la lessive à chaque fois. Et donc ce principe de dosage automatique, ça va te permettre d'économiser jusqu'à 30% de lessive. Et il faut savoir que le surdosage, on a tous tendance à surdoser parce qu'on se dit qu'il peut le plus, peut le moins. De toute façon,
alors que
mieux que ça soit trop propre que pas assez propre.
Que ça sente encore meilleur. Voilà.
Et en fait, c'est une vraie connerie parce que, d'une part, au niveau environnemental, tu vas avoir des résidus de lessive dans les eaux grises. Au niveau sanitaire, c'est pas terrible non plus parce que les résidus de lessive dans les vêtements, ça peut créer des réactions allergènes. Mmh. Et au niveau mécanique, on a appris, alors ça on le savait pas, mais que je pense qu'ils sont partis pour
ouais, c'est travaux en cours. Écoute, je couperai, j'enlèverai les bruits de fond autant que possible.
Et donc au niveau mécanique, on a appris que ça pouvait générer trop de lessive peut générer de la mousse, ce qui va générer des points d'oxydation. Donc en fait, on a tout intérêt à moins mettre de lessive, et là, le dosage automatique permet vraiment d'ajuster, vraiment juste ce qu'il faut en termes de quantité de lessive utilisée.
Ok. Et justement, enfin là, on a commencé à voir l'usage, tout l'aspect conception, évidemment. Justement, la fabrication aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'on en parle depuis pas mal d'années, mais où vous en êtes aujourd'hui ?
Mais ouais, tu crois pas si bien dire. Aujourd'hui, c'est vraiment la clé de voûte du projet, l'industrialisation. C'est à la fois ce qui fera que le projet existe ou pas et le point le plus complexe à mettre en place. Pendant ces 2 ans, voire un peu plus de 2 ans maintenant qu'on est sur le projet, on a développé donc une nouvelle version de la machine que j'ai détaillée de manière assez approfondie, mais on a aussi surtout fait un tour d'Europe des usines de Lablinge. C'était assez cool à faire puisqu'on s'est rendu dans plusieurs pays d'Europe, en Angleterre, en Italie, en Slovénie, en Allemagne et j'en passe. Donc à la rencontre d'acteurs de l'électroménager et notamment des gens qui fabriquent des lave-linges. Et on a vu des acteurs assez variés, de la petite PME de 300 personnes jusqu'au grand groupe international. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on en est toujours là. On a contacté en tout plus de 16 fabricants. On a réussi à visiter 8 sites. Et aujourd'hui, on est toujours en lien avec 4 acteurs.
D'accord.
Des acteurs qui sont pas forcément d'ailleurs le dernier en date, c'est un acteur français. On a rencontré un fabricant de lave-linge en Vendée, à La Roche-sur-Yon, mais on a aussi rencontré récemment un acteur français, pas du tout du secteur du lave-linge, puisque c'est un équipementier automobile.
D'accord, ok.
Qui cherche à se diversifier, qui a un savoir-faire industriel incroyable, et qui nous a contacté. Parce qu'ils seraient potentiellement intéressés pour s'investir dans le marché du lave-linge et notamment du lave-linge éco-conçu. Donc ça, c'est passionnant. Et c'est peut-être même plus avec un acteur comme ça que ça se fera qu'avec un acteur dont c'est le métier, qui est très pointu dans la fabrication de lave-linge, mais tellement pointu en même temps qu'il n'a pas trop envie de bouger de ce qu'il avait l'habitude de faire depuis des années.
Et puis il n'a peut-être pas forcément
l'intérêt,
l'outil pour le faire. Ouais.
Alors l'outil, si, parce que en même temps, dans la nouvelle version de la machine, on s'est basé sur des composants existants en partie. Et d'ailleurs, on a rencontré l'acteur industriel qui fabrique un certain nombre d'éléments sur lesquels on s'est basé. Bon, manque de bol, il s'avère que l'été dernier, ils se sont fait racheter par des Chinois, ce qui a coupé net par un acteur chinois, ce qui a coupé net aux échanges. Donc c'est aussi ça, les joies de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et que le projet et que ça bouge dans tous les sens et que le projet en fait c'est ça aussi un projet aussi complexe on fait pas c'est pas le projet de deux artisans qui font leur lave-linge dans leur coin quoi. C'est un projet multi-acteurs et on n'est qu'un acteur parmi d'autres au sein de ce projet.
Même si t'as beau être un peu le chef d'orchestre.
On est le chef d'orchestre, mais sans les musiciens, on va pas faire beaucoup de musique. Et donc aujourd'hui, il nous manque un certain nombre de musiciens, et notamment, le plus important, l'acteur industriel qui prendra en charge la fabrication des pièces les plus stratégiques de la machine, à savoir la cuve, le tambour, tout ce qu'on appelle le bloc laveur, en fait, ce qui est à l'intérieur de la machine. Là où la carrosserie, on peut faire ça à peu près facilement et à peu près n'importe où, ça reste de la tôle découpée en boutis et pliée. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est vraiment l'intérieur de la machine. Et aujourd'hui, on peut pas l'acheter sur étagère, comme on dit, au même titre qu'une pompe ou qu'une carte électronique. Et donc, les gens qui fabriquent ces pièces-là aujourd'hui sont difficiles d'accès. On a réussi à en contacter, à en rencontrer quelques-uns. Mais bien qu'on ait réussi à les rencontrer, même après les avoir rencontrés, bah c'est toujours pas évident de maintenir le dialogue. Et donc là, on est dans cette phase où, justement, on essaye de mettre en place tout ce qui est en notre possible à notre échelle pour accélérer les discussions, pour les convaincre aussi qu'il y a un marché, parce que eux, ce qu'ils nous disent, c'est que vous êtes bien gentils, mais déjà, on arrive... de gars à la fleur au fusil. bon, bah écoutez, vous êtes bien gentils. Bon, nous, on n'y connaît pas grand-chose en lave-linge, mais on pense que là, en fait, ça va pas. Les machines, elles ont une durée de vie beaucoup trop courte, donc il faut changer ça. Et nous, on pense qu'on a des idées pour changer ça. Donc, il y a déjà ce premier truc où, On peut comprendre qu'ils se demandent un peu qui on est, si on est complètement fou ou complètement naïf ou un peu des deux. Et...
il faut un peu de ça dans l'entrepreneuriat.
Ouais, de toute façon, c'est clair. Si tu vas pas avec un peu de naïveté et d'innocence, tu vas pas. Si on avait su tout ce à quoi on allait se confronter, je sais pas si on l'aurait fait. Je pense que ça fait partie de. Il faut la juste dose de naïveté pour pouvoir se lancer. Et donc il y a ça, et ils ont besoin d'être convaincus qu'il y a un marché, parce que en fait moi le parallèle que je prends souvent par rapport aux discussions qu'on a eues avec les industriels, c'est que on est un peu dans la situation d'il y a 10 ans dans la grande distribution, dans le secteur alimentaire, quand les grands acteurs de la distribution se disaient le bio c'est un truc de hippie, ça ne marchera jamais, les gens ne voudront jamais payer 2 à 3 fois plus cher leur alimentation pour leur santé et pour la santé des écosystèmes et de la planète. Les gens, ils achètent des prix, ils veulent des tomates à 1 euro et voilà.
Et finalement,
il s'avère que en fait, on est de plus en plus nombreux à se poser des questions sur ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour le vivant en règle générale, et comment on peut manger de manière plus consciente et respecter les écosystèmes, les gens qui font la nourriture, et nous également, puisque on ingère cette nourriture. Et donc on en est un peu à ce niveau-là où aujourd'hui les fabricants se disent nous on a toujours produit de la machine à laver comme ça, on voit pas pourquoi on changerait pour des produits plus réparables,
comme
et
d'habitude.
Et qui veut mettre plus cher pour des produits qui durent plus longtemps. Sauf que nous, en face de ça, on est en première ligne et tous les jours il y a des gens qui, pas plus tard que ce matin, je répondais à une personne du Québec qui me demandait où est-ce qu'il peut acheter la machine. Et tous les jours, c'est comme ça.
Incroyable.
De France, mais pas que, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, essentiellement des pays francophones, parce qu'on est essentiellement, on communique essentiellement le projet en français pour le moment. Mais tous les jours, il y a des gens qui nous contactent pour savoir où, quand, comment ils peuvent acheter la machine. Donc nous, on est persuadés qu'il y a un marché. Mais là, c'est la raison pour laquelle on souhaite aller un cran plus loin. Donc on souhaite tester notre marché, en fait, grandeur nature, et voir si les gens sont prêts à nous suivre, les gens qui sont intéressés par le projet sont prêts à nous suivre jusque-là, en mettant en place une campagne de réservation.
Ouais.
Et donc ça va nous permettre d'avoir un test marché grandeur nature, c'est-à-dire que un peu à la manière de ce qu'a pu faire Tesla avec le modèle 3, donc leur premier modèle grand public, leur modèle de voiture électrique compacte, avec un prix objectif de $35,000, ce qui a toujours pas été atteint pour le moment, mais ça, passons, c'est un objectif.
Là, en termes de complexité, on est.
Et puis c'est aussi des moments. Et donc un peu sur ce modèle-là, où à ce moment-là Tesla avait proposé de pré-réserver la voiture avant qu'elle soit industrialisée en échange du versement d'un acompte. Et nous donc on s'est inspiré de ça pour se dire nous la machine notre prix visé c'est environ 1 000 euros, soit 2 à 3 fois le prix moyen d'une machine aujourd'hui pour une durée de vie 2 à 3 fois plus importante. Donc un prix moyen de 1 000 euros et on va proposer aux personnes qui le désirent de réserver une machine, d'être parmi les premiers à pouvoir précommander la machine lorsqu'elle sera industrialisée et commercialisée pour un montant de 100 euros.
D'accord.
Et ça, on va pouvoir le faire à partir du 7 mai sur notre site internet directement. Donc de manière très simple, en remplissant un formulaire, en versant la compte. Et donc l'idée, c'est d'être aussi très rassurant sur le fait qu'à tout moment, les personnes qui nous soutiennent via le versement de cet acompte pourront tout à fait récupérer leur argent. S'ils vont jusqu'au bout et qu'on arrive à produire la machine, évidemment, ces 100 euros seront déduits de l'achat final. Bien ça sûr. Va de soi, c'est un acompte. Et puis, si, parce que l'objectif, en fait, de cette campagne de réservation, c'est de démontrer cette demande concrètement. Et clairement, les gens qu'on a en face de nous, que ce soit nos potentiels partenaires industriels, mais aussi nos potentiels partenaires financiers, banques, fonds d'investissement et autres, eux, ils ont besoin d'argent sonnant et trébuchant, de dire « Ok, c'est concret, là, il y a quelque chose de vraiment tangible. » Et donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser cet argent pour financer notre fonctionnement, mais vraiment de voir cet argent comme une caution, comme une preuve concrète, tangible, de la demande de ce type de produit aujourd'hui, de mesurer de cette manière-là. Donc on va lancer ça le 7 mai, ça va durer 2 mois. L'idée c'est de voir en 2 mois évidemment de faire un, d'espérer un maximum de réservations, de voir quel nombre de réservations.
Est-ce que tu as un objectif?
Alors, on a évidemment un objectif. On se dit qu'un millier de réservations, ça commencerait à avoir un peu de gueule.
Ouais.
Ce serait bien, après, évidemment.
Surtout que. Enfin, 1000, c'est effectivement un chiffre, mais en plus, c'est quand même une belle preuve d'engagement de la part des 1000.
Tout à fait, tout à fait.
C'est pas rien de lâcher 100 euros ouais, tout à fait. Pour un projet qui est encore hypothétique, on va dire.
Ouais. Non, ce serait une belle réussite si on arrive à atteindre les 1000 exemplaires, les 1000 acomptes versés. Et donc, nous, on s'engage de dire, une fois qu'on aura cette somme d'acomptes, on va déjà... retoquer au point des différents industriels avec qui on échange en ce moment, leur dire regardez, là ça devient sérieux quoi. Enfin, y a vraiment des gens qui attendent sérieusement le produit, qui sont prêts à verser de l'argent alors que le produit n'existe pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts à nous suivre ou pas? D'une part ça, et puis si ça marche toujours pas, si on n'arrive toujours pas à convaincre l'un d'entre eux de nous suivre, et d'ici la fin de l'année on remboursera tout le monde et voilà. On réfléchira peut-être à une autre méthode pour aller plus loin, en attendant de pouvoir financer notre propre usine. Ce qui a fini par faire Dyson, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il a, ça lui a pris 10 ans, mais il a commencé par faire son proto dans son coin, par taper à toutes les portes.
Personne ne ça ne sert à rien, que c'est nul.
Personne ne voulait de son truc parce que clairement, il éclatait le marché du sac en papier jetable. Donc, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne voyaient pas ça forcément d'un bon oeil. Et il a fini, lui, comment il est arrivé. Donc, aucun industriel n'a joué le jeu. C'est peut-être ce qui nous attend, on verra. Mais il a fini par vendre la licence de sa technologie à un industriel japonais, uniquement pour le marché japonais. Et les royalties
du marché
japonais lui ont permis de financer sa propre usine. Donc, en fait, il a fini par faire sa propre usine. Il a fini par faire sa propre usine en Angleterre et il a commencé comme ça.
Et après on connaît
la suite.
Bon, génial. En tout cas, j'étais. Je sais que tu dois y aller là, mais en tout cas, j'étais super content de pouvoir en savoir plus sur l'Incroyable, qui est un peu un des meilleurs exemples de design circulaire de ces dernières années. Et je te souhaite bonne chance ainsi qu'à Julien pour cette. Campagne de précommande quoi. Et je rajouterai le lien évidemment à l'article, histoire que tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont été convaincus par le projet, ta description et tous les enseignements que tu nous as donné sur ce produit incroyable incroyable dans le sens où c'est tellement commun que voilà. Donc voilà, faut pas hésiter à précommander l'Increvable, surtout que vous pouvez être remboursé quelques mois après si vous êtes pas content. et puis voilà, un grand merci. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter à cet entretien?
Si ce n'est déjà merci Brieux de m'avoir donné la possibilité d'échanger, c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter la genèse du projet et aussi voilà ce que ça comporte de comme défi. Une chose à ajouter, je dirais venez nous voir le 7 mai, on organise donc un événement au Canot, qui est donc un lieu de la ville de Paris entièrement dédié au...
Métro Stalingrad.
Exactement, près de la rotonde, donc au bord de l'eau, au bord du canal, et donc un lieu dédié aux initiatives de l'économie sociale et solidaire.
Alors, il n'est pas impossible que cet épisode soit publié après le 7 mai, donc est-ce qu'on pourra continuer à aller au canot, voir...
Alors non, ce sera juste une soirée. Mais on organisera certainement d'autres événements durant ces 2 mois. Donc,
si c'est pas pour la publication,
si c'est pas le
meilleur timing.
Le 7 mai, ce sera une autre occasion. Alors. Mais bon, voilà, c'était pour la petite info.
Génial. Bonne chance.
Merci.
Et à très bientôt.
Ça marche. À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.